Bonjour à toutes et à tous. Seigneur, par ton esprit, guide-nous, ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ce qu'il dit à l'Église. Au nom de Jésus. Amen. On va faire quelques lectures. D'abord, le psaume 8. Le psaume 8. Que nous lirons en entier, il n'est pas très long. Au chef des chantres sur la guittite, c'était peut-être un ukulélé. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. J'aime beaucoup ce psaume qui ratisse large dans le sens vertical. On va lire dans la lettre aux Hébreux, maintenant, chapitre 2, les versets 5 à 10. Et vous verrez qu'il reprend ce psaume. L'auteur, inspiré, écrit. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Voilà un éclairage assez étonnant sur ce psaume 8, qui pouvait être entendu d'une façon un peu générale. On contemple la création, on contemple l'humanité, on s'émerveille. D'ailleurs, est-ce que nous sommes encore capables de nous émerveiller devant le spectacle de la nature? Mais on en restait au plan général. Et puis là, tout d'un coup, il y a comme un déplacement où l'homme, ce n'est plus n'importe quel homme. Ce n'est plus n'importe qui. C'est quelqu'un de précis, dont on a le nom. Jésus, l'homme, abaissé au-dessous des anges, est maintenant au-dessus de toute chose, à cause de la mort qu'il a soufferte. On va aller encore vers un autre texte. Il y en a encore deux, hein. Attendez, c'est pas fini. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 10. Là, il s'agit de nous, des apôtres et des chrétiens en général. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et enfin, l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 9. Marc, chapitre 1er, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Qu'est-ce que l'homme ? On pourrait dire qu'est-ce que l'humain ? Il est très probable que cette question soit d'abord destinée, dans le psaume, à mettre en évidence l'amour extraordinaire de Dieu pour sa créature, tiré de la poussière, insignifiante. C'est vrai que nous avons souvent le sentiment de notre insignifiance devant un raz-de-marée, devant un lever de soleil, devant... Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui. Ça met en évidence l'amour extraordinaire de Dieu pour sa créature, tiré de la poussière. Le Adam. Vous savez qu'Adam, ce n'est pas un nom propre dans les premiers chapitres de la Bible. C'est la chose, l'humain, celui-là, Adam, l'homme tiré de la poussière. Pourtant, cette question du psaume 8, qui revient dans le Nouveau Testament, me semble très pertinente et très actuelle. C'est vrai que nous avons une réponse, nous, biologique, anthropologique, nous avons des réponses. C'est quoi l'homme ou la femme ? Parce que les femmes sont incluses là-dedans, hein, faut pas... Mais je ne vais pas mettre parler inclusif parce que ça va être inaudible. Qu'est-ce que l'homme ? Question, me semble-t-il, d'une particulière gravité actuellement. Dans les enseignements de Jésus sur la fin du monde, par exemple dans Matthieu 24, il fait référence au jour de Noé. et du déluge par lequel l'humanité d'alors disparut, à l'exception de Noé et des siens. Pourquoi un tel jugement? Eh bien, personnellement, je pense que c'est parce que l'humanité contemporaine de Noé n'était plus tout à fait humaine. Elle était frelatée. Le chapitre 6 de la Genèse, qui précède le récit du déluge, nous montre en effet une espèce d'hybridation du genre humain avec des êtres angéliques. On en a parlé récemment, ces fils de Dieu qui virent que les filles des hommes étaient belles et qui eurent des enfants avec elles, ce furent autrefois des géants fameux dans l'Antiquité. Vous avez sûrement lu ce texte. Chez les Grecs, le mot « hybris » qui a donné « hybridation » est une notion qui se traduit souvent par « démesure ». Orgueil, c'est un sentiment violent, inspiré des passions et particulièrement de l'orgueil. Les Grecs lui opposaient la tempérance et la modération. Cette lecture me ramène vers notre siècle technicien, fortement tenté par le dépassement des limites naturelles de l'être humain. Certes, tout n'est pas négatif dans les progrès de la technique, je pense notamment au domaine médical. Heureusement qu'on ne nous soigne plus comme au Moyen-Âge. J'ai visité à Paris le musée de la chirurgie au Moyen-Âge. Il y a de quoi cauchemarder, je vous assure. On a fait des progrès, heureusement. Donc tout n'est pas négatif dans ce domaine-là. Mais le désir de faire reculer les limites du corps toujours plus loin, d'allonger la durée de la vie jusqu'à des rêves d'éternité, je n'invente rien. Mais aussi les progrès techniques de la communication, je ne sais pas si c'est un progrès d'ailleurs, la conquête spatiale, nos tours de Babel modernes, tout cela a quelque chose de fascinant au sens étymologique, ça nous capte. C'est même un peu inquiétant. Bon, heureusement quelqu'un disait qu'on n'arrête pas le progrès, il s'en charge bien tout seul. C'est vrai. Cette semaine, je lisais dans l'hebdomadaire Réforme de la semaine passée un petit extrait. C'est une déclaration de Jeff Bezos. Vous savez qui c'est ? Patron d'Amazon. Hein ? Et de Elon Musk, c'est un milliardaire qui est patron d'X-Space. Ils veulent conquérir l'espace, n'est-ce pas ? Toujours plus. Voici ce que ces hommes ont dit. Le salut de l'humanité passe par les progrès technologiques et par la possibilité de l'homme de s'extraire de son carcan génétique et terrestre. Si ce n'est pas de l'hybris, je ne vois pas ce que c'est. S'extraire du carcan génétique et terrestre. Vous ne trouvez pas que notre société est quand même très tentée par ça? Les hommes ne veulent plus être des hommes. Les femmes ne veulent plus être des femmes. On est où, là? En terrain neutre. Sans être en Suisse. Hein. Ni homme, ni femme, ni gauche, ni droite. On veut tout simplement être autre chose. Il y a un désir de pseudo-liberté, d'affranchissement total de toute limite, de toute entrave, de tout interdit, de toute loi. L'hybris. Pourtant, chacun, chacune de nous s'en rend bien compte. Nous vivons dans une société qui, à l'instar des jours de Noé, semble attiré comme par un trou noir vers le chaos, en fait. Les questions de genre, le transhumanisme, les manipulations génétiques, l'indifférenciation sexuelle jettent nos contemporains dans la confusion. Qui est le prince du chaos ? Qui est celui qui désire tout faire retourner au tohu va bohu ? Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu qui crée en mettant de l'ordre dans le chaos, en mettant une loi par amour. Oui, on entend bien la voix du tentateur dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, autosuffisants, illimités. Voilà la tentation de notre siècle dans lequel nous vivons. Que fait Dieu dans tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, pour comprendre ce que Dieu va faire, il faut essayer de se souvenir de ce qu'il a fait, parce qu'il a fait quelque chose d'inouï. L'Évangile, voilà ce que Dieu a fait. Il nous fait entendre une autre musique. Dieu ne se rencontre pas au sommet de la science ou de la technique, mais au ras du sol, parmi nous, avec nous. Jésus, c'est aussi Immanuel, Dieu avec nous, de notre côté. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu se fait notre frère. Juste avant d'abandonner Jésus à la mort, et sans s'en douter une seconde, le procurateur Pilate prononce une parole théologique absolument inouïe. Il amène Jésus lié devant la foule et il ne dit qu'une phrase de deux mots. Voici l'homme. Ecce homo. Voici l'homme. Voilà ce que Dieu a fait. N'est-ce pas merveilleux? Mais alors, ça heurte violemment tout ce monde duquel nous faisons partie, qui nous a vu naître, qui nous a fabriqués, qui nous a façonnés, qui a façonné nos mentalités. Ça heurte de plein fouet tout cela. Voici l'homme. J'aime particulièrement ce passage de l'évangile de Marc. Jésus vient de Nazareth au Jourdain. Pour quoi faire? Pour être baptisé par Jean. Qui est celui qui vient se fondre dans la foule des pécheurs repentants? Qui est-il? On ne le sait pas encore. On n'a pas encore à l'instant T du baptême de Jésus, on n'a pas encore l'audace, ni le courage, ni la lucidité de dire « c'est Dieu ». Et pourtant, c'est bien cela. Quand Dieu dit « celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », c'est une manière divine de s'investir totalement, s'identifier totalement à celui qui se fait baptiser. Ah, ça alors! L'envoyé du Père, c'est le visage humain de Dieu. Dans le Fils bien-aimé, Dieu se solidarise avec nous. Il s'abîme parmi nous, dans le sens d'un abîme profond, qu'il va visiter jusqu'au fond pour être avec nous. Parce que nous, nous y étions. Nous étions tous très abîmés, dans les deux sens du terme. Cabossé, gâté, blessé, mais aussi perdu. Nous étions dans l'abîme. Je pense à ce vieux cantique, plongé dans un bourbier de fange. Je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva.
Alléluia.
Son sang, tous mes péchés lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mont Golgotha. Ça, c'est vraiment l'évangile. Voyez-vous ? À la limite, je dirais, mais pourquoi est-ce que nous demandons au Seigneur de nous bénir ? À Christ uni, je suis, tu es, nous sommes bénis. Béni. Je vais faire un jeu de mots. Bénéi. Les fils et les filles. Bénéi. Yahvé Adonai. Les fils de Dieu. À Christ uni, nous devenons membres de sa famille, de sa communauté, de sa communion. Pourquoi ? Parce qu'il est venu s'abîmer, se perdre parmi nous sur la croix. Aucune religion du monde, je dis bien aucune, aucune spiritualité, aucune philosophie, aucune n'a pu imaginer cela. Les images de Dieu que les humains se fabriquent sont toujours à leur ressemblance. On pourrait inverser le verset de la Genèse. Dieu fit l'homme à sa ressemblance, à son image, mais on le lui a bien rendu, comme disait quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pas Prévert qui a dit ça, ou peu importe. Nous avons créé Dieu à notre image. Le général d'armée, le magicien, le tout-puissant, l'omnipotent. Ouais. Il sait tout, il est partout. Voilà. Voilà quelles images nous avons de Dieu. Or, Dieu est venu s'abîmer. Bien sûr, il n'est pas resté prisonnier de la mort. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, une nouvelle humanité a ainsi été engendrée par cet acte inouï, fou, scandaleux, de la croix. Aucune religion, aucune philosophie n'a pu imaginer un tel amour. Ou c'est le scandale absolu pour les uns, par exemple les juifs, pour qui associer Christ et crucifié, ça colle pas, c'est antinomique. Ou c'est une folie irrecevable pour les autres, c'est-à-dire les autres nations, les Grecs, comme on dit. La lettre aux Hébreux l'affirme, c'est par des souffrances qu'il a subies que Jésus a été élevé à la perfection de Sauveur, celui qui nous rachète. Il l'est devenu à travers des souffrances. Et c'est un mot qui en dit long. Hein. Alors après son baptême, Jésus est aussitôt expulsé dans le désert. Le mot grec est le même que lorsque Jésus chasse les démons. Jésus est chassé dans les déserts pour y être tenté par Satan. On se retrouve un peu en écho du jardin d'Éden. N'est-ce pas ? Le tentateur s'approche d'Adam dans le jardin d'Éden pour le rencontrer. Et nous savons ce qu'il en est devenu. Mais là, Jésus est exposé au même tentateur, mais c'est un combat victorieux que Jésus va mener en ne laissant pas un pouce de terrain à celui qui lui proposait la toute-puissance, l'éblouissement des foules, la satisfaction des désirs les plus humains, charnels, pour ne pas dire bestiaux, de l'humain. Changer les pierres en pain, atterrir en douceur sur l'esplanade du temple, ou bien pactiser avec le prince des ténèbres, avec le principe des ténèbres. Jésus refuse tout cela. Donc Jésus est victorieux. Le récit que Marc fait de cette tentation est très sobre. Nous n'avons aucun détail sur les paroles échangées. Nous savons seulement la durée de cette épreuve, 40 jours, chiffre ô combien symbolique d'une mise à l'épreuve dans la Bible. Puis nous voici enfin, à la fin de ce petit texte de Marc, devant une sorte de tableau, une situation qui résulte de cette confrontation. Une seule phrase, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Quel tableau! Voici la bonne nouvelle. Voici le nouvel Adam. Voici le paradis. Voici celui qui est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, se tient entre les bêtes sauvages et les anges, entre la bestialité sauvage, indomptée, et les êtres de lumière, les anges. Son histoire trace une route toute nouvelle, la route d'une humanité possible, ouverte à tous les siens, à nous qui sommes là ce matin, la voie royale de la liberté. La voie royale de la liberté. La voici, cette voie ouverte, inaugurée par celui qui est entre les bêtes sauvages et les anges et qui va le demeurer, qui ne va pas dévier ni à droite ni à gauche, fidèlement jusqu'au bout, jusqu'à ce que la croix l'engloutisse pour lui permettre de ressusciter nouvelle humanité, nouvelle création, capable d'engendrer lui-même, par sa parole et par son esprit, une nouvelle humanité. Voyez ce qui s'est dit sur la croix, le brigand qui dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Qu'est-ce que Jésus répond ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il crée le paradis. Il crée cette compagnie dans laquelle nous entrons. Et le repas du Seigneur va nous rappeler encore une fois, pas une fois de trop, mais une fois de plus, que nous sommes en compagnie de Jésus. Nous mangeons le même pain. Vous savez, compagnon, c'est le même pain. Ce pain pour lequel nous allons rendre grâce. C'est dans la communauté qui partage ce même pain qu'il nous faut discerner le corps du Christ. N'oublions pas ça. Il n'y a pas de matérialité dans le corps du Christ, dans le pain. Mais nous formons un seul corps. Nous sommes le corps à discerner. C'est-à-dire, tirons les conséquences de cette fraternité qui nous met dans le même bain tous, frères et sœurs, fils d'un même père, comme les Bretons, qui n'ont qu'un père. Non, mais des fois, j'ai envie de vous détendre un peu, parce qu'ils sont graves, là. Même sauvages, les animaux ne connaissent pas vraiment la liberté parce qu'ils obéissent aux lois de leur espèce, leurs instincts. Ils sont tenus par ça, même si on les dresse, vous savez, on raconte l'histoire d'un responsable de cirque qui avait dressé un chat. C'est pas facile d'élever un chat. Alors, il y avait la foule pour venir voir comment cet homme avait réussi à éduquer son chat, il était même capable de servir le thé, voyez-vous. Alors, c'était un spectacle. Alors, il y a un spectateur un peu roublard qui, un jour, est allé voir ce spectacle, mais il a amené avec lui une boîte d'allumettes dans laquelle il avait caché une souris. Et quand le chat a vu la souris, pouf, il a envoyé tout valdinguer pour courir après, évidemment. Chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Non, les animaux sauvages ne connaissent pas vraiment la liberté. Ils obéissent à leur espèce. Bien qu'en liberté, ils ne sont pas réellement libres. Quant aux anges, est-ce que les anges sont libres, à votre avis? Est-ce que les anges sont des êtres de liberté? Fais la grimace, toi. Hein
Pardon.
Non, ils ne sont pas libres. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Dans leur qualité d'être spirituel, ils accomplissent les desseins de Dieu. Certes, ils sont supérieurs à nos capacités, hein, en puissance, en gloire. Et il y a des témoignages, vous savez, dans les récits missionnaires ou autres, dans la vie de l'Église même, il y a vraiment de nombreux témoignages où des chrétiens ont été secourus par les anges. C'est vrai. Mais les anges obéissent à Dieu et ils sont au service de celles et ceux qui doivent hériter du salut. La Bible semble pourtant affirmer que quelques-uns se soient rebellés. Il en est question dans certains récits, les épîtres de Pierre et de Jude. Quant à ces anges qui se sont révoltés, Dieu les a jugés. Ils sont enchaînés dans l'attente d'être définitivement jugés. Bon, je ne vais pas spéculer là-dessus, mais c'est clair. La victoire que Jésus remporte sur le tentateur repose précisément sur ce refus d'être comme Dieu, ou comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, Jésus n'a pas regardé comme une proie à ravir d'être égal avec Dieu. Justement, ce que proposait l'adversaire à Adam, vous serez comme des dieux, eh bien Jésus n'a pas regardé comme une proie à ravir, d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, par amour pour nous. Jésus n'est pas un être hybride. Et ça a été constamment le débat dans la chrétienté depuis les premiers siècles. Il y a eu toutes sortes de mouvements, de conceptions, de visions de Jésus-Christ différentes. Mais les épîtres sont là pour nous le rappeler. Quiconque croit que Jésus-Christ est venu en chair, est de Dieu. Ce n'est pas un être frelaté, simple homme. Dieu véritable, simple homme. Notre frère, Jésus, mon frère. Jésus, mon Dieu. C'est pas explicable. C'est juste à accepter dans la foi. Il y en a toujours que ça les démange, hein, ils veulent aller chercher le pourquoi du comment, mais ça ne sert à rien. L'apôtre simplement nous invite à avoir nous-mêmes ces sentiments-là, c'est-à-dire les pensées qui sont dans le Christ Jésus. La foi nous met sous tension entre deux pôles. Ça, c'est pour les électriciens. Nous sommes entre les deux pôles. Soit vouloir échapper et penser peut-être que, en tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, nous pouvons échapper à... Et il y a eu bien des dérapages dans le monde charismatique. Où on se croit tellement plein du Saint-Esprit qu'on s'affranchit de tout. Et puis il y a aussi l'autre pôle qui peut nous attirer, c'est le désespoir. J'y arriverai jamais. Rien ne change, c'est pas possible. Et je suis sûr que vous avez aussi connu cette petite voix. Non ? Je me trompe ? Attiré entre deux pôles, ni bête ni ange. C'est Pascal qui disait que l'homme n'est ni ange ni bête. Et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Nous sommes tentés d'imaginer une vie chrétienne au-dessus de la simple condition humaine, au-dessus de son cortège de faiblesses, de contingences, de souffrances, d'épreuves de toutes sortes. Nous serions en prise directe avec le ciel. Je pense à des trucs, mais il ne faut pas que je me perde. Oui. Ceci ferme la voie à tout intégrisme. Ceci ferme la voie à toute intolérance, nous ramène à un peu plus d'humilité et d'accueil des faiblesses des uns des autres. T'inquiète pas, ça va aller, tu y arriveras. Pourquoi ? Parce que Jésus est là. Il a parcouru victorieusement ce chemin entre la bestialité et l'angélisme. Oui, nous sommes parfois tentés par la vision d'un christianisme aussi trop à l'aise dans ce siècle auquel l'apôtre nous demande de ne pas nous conformer. Tout au long de son histoire, le christianisme a oscillé entre ces deux pôles, parfois vers une spiritualité quasi inhumaine, je pense à l'ascèse de certains ordres monastiques, comme si on pouvait arriver à être plus près de Dieu parce qu'on a jeûné 40 jours, parfois aussi tenté par une installation séculière, comme la papauté avignonesque, les papes à Avignon, de cette époque-là, au XIIe, XIIIe siècle, c'était des princes qui se gavaient, qui opprimait les petites gens. Ce n'est pas l'Église, ça. Mais ça fait du mal à l'Église. Ça fait du tort à l'Évangile. Cette vision d'un christianisme si bien dans sa peau qu'on en devient animal. Un jour, je vais terminer par là, Paul a écrit une lettre aux Corinthiens, la deuxième, dans laquelle il se défend, où il combat contre des super-apôtres qui étaient séduisants et auxquels les Corinthiens donnaient large place et ils étaient très attirés par ces poids lourds charismatiques. Voilà, c'était des gaillards qui avaient un tableau de chasse charismatique époustouflant. Et Paul, il ne sait rien du tout. C'est bien quand il est dans ses lettres, il est sévère, mais quand il est là... Et Paul se défend contre cette attirance de la part des Corinthiens pour ces apôtres, ces super-apôtres, ces apôtres par excellence, comme il dit assez ironiquement. Et il dit, je vais vous montrer, moi, l'épreuve du véritable apostolat. Les coups, les naufrages, les persécutions, les soucis, les maladies, la faiblesse. Et il termine cet inventaire en disant, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'épreuve de son apostolat, c'est une fidélité sans faille dans la trace de celui qui est ni homme, ni bête, ni ange, mais qui est l'homme. Voici l'homme. Et au fond, nous ne sommes pas invités à suivre une autre route que cela. Une route, je ne dirais pas pour devenir tous des hommes, mes sœurs, excusez-moi, mais une route d'humanité véritable. Une route d'humanité véritable précédée par celui qui est le Dieu vivant et vrai, qui nous protège. Il n'est pas seulement à notre droite, il est aussi à gauche, devant, derrière, au-dessus, dedans. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de sa force, et qui nous donne la bonne vision des choses. Vous savez, nous sommes vraiment dans un monde difficile. Et je pense qu'il est important que les chrétiens sachent comment se situer par rapport à la société, à ce monde qui déraille complètement. Soyons au clair sur ce que Dieu a fait de nous. Et puis, n'ayons pas de jugement pour ceux qui sont dans l'ignorance. Prions pour eux. Prions pour eux et que notre vie, ce que nous sommes, ce que nous vivons jour après jour, puisse plaider devant la société en faveur de l'Évangile. Il en a bien besoin. Amen. Seigneur, bénis ta parole pour nous. Merci d'être avec nous par ton esprit, de nous remplir. Merci de pouvoir compter sur toi. Nous réclamons, Seigneur, ce matin encore, que tu ouvres nos oreilles toujours plus, que tu ouvres nos yeux toujours plus, qu'il nous soit accordé cette fidélité, cette sagesse, cette persévérance dans le chemin que tu as tracé toi-même jusqu'à ce que tu viennes. Amen.